Imaginons la scène un instant. Un homme est assigné à résidence, confiné dans un espace hyper restreint. Il est en fait littéralement enchaîné à des gardes impériaux romains, de jour comme de nuit, donc zéro intimité.
Ouais, l'angoisse totale.
C'est ça. Il attend un procès qui, selon toute vraisemblance, pourrait se solder par son exécution pure et simple. Les conditions sont précaires, l'avenir est sombre, et le stress doit vraiment être à son paroxysme. Et pourtant, bah, la lettre qu'il est en train de dicter est considérée aujourd'hui comme l'un des textes les plus profonds jamais rédigés sur le thème de la joie et de la paix mentale.
C'est un contraste qui est super troublant quand on y pense. Face à une situation pareille, la logique humaine anticiperait plutôt un testament rempli de désespoir, de terreur ou, au grand minimum, d'une résignation fataliste, tu vois.
Carrément.
Mais au lieu de ça, on se retrouve face à un véritable manifeste sur la résilience émotionnelle, spirituelle, psychologique, et c'est écrit par quelqu'un qui regarde littéralement la mort en face.
Et c'est exactement ce paradoxe qui rend notre exploration d'aujourd'hui si captivante. On se plonge dans une analyse détaillée, une exégèse particulièrement riche du docteur Matthew S. Harmon. C'est tiré de son 12e cours sur l'Épître aux Philippiens.
Tout à fait.
Plus précisément, on va s'immerger dans le chapitre 4, les versets 4 à 9, où l'apôtre Paul livre ses exhortations finales depuis sa captivité romaine. Et la mission de notre analyse, c'est pas juste de faire une leçon d'histoire antique.
Non, l'idée c'est d'en tirer quelque chose de concret.
Voilà. La mission, c'est de comprendre les mécanismes de cette sagesse, de voir comment des concepts vieux de deux millénaires sur la gestion de l'anxiété, le choix de la joie, peuvent court-circuiter nos propres tempêtes modernes. Bon, décortiquons un peu tout ça. Comment le cerveau d'un homme qui risque la décapitation peut-il formuler des instructions aussi précises sur le bonheur ?
Bah, la force de ces mots réside justement dans l'absence totale de confort de sa situation. Je veux dire, s'il rédigeait ces lignes depuis une villa luxueuse avec vue sur la mer, on rejetterait immédiatement ses conseils.
Ah, c'est sûr. On le traiterait de philosophe déconnecté.
Exactement. On dirait qu'il ne connaît rien à la souffrance. Mais là, le docteur Harmon souligne une nuance fondamentale dès le verset 4. L'injonction répétée de Paul qui commande de se réjouir, ça exige une redéfinition radicale de la joie elle-même.
C'est-à-dire ?
Eh bien, pour l'apôtre, la cible de cette émotion, son point de fixation exclusif, c'est ce qu'il appelle le Seigneur. C'est en aucun cas la situation présente ou l'absence de problème.
Ouais, et c'est une nuance qui change toute la dynamique, quoi. Pour utiliser une image, c'est la différence mécanique entre les vagues à la surface d'un océan et l'ancre d'un navire de haute mer.
Oh, j'aime beaucoup cette analogie.
Bah, tu vois, les vagues représentent nos circonstances, la météo de nos émotions au quotidien. Un jour, l'eau est d'un calme plat, le lendemain, bam, c'est un ouragan destructeur. Ça fluctue de manière totalement incontrôlable.
Ouais, la vie, quoi.
C'est ça. Mais l'ancre, elle est plantée dans le fond marin. Elle est immuable. La joie dont parle Paul, selon cette analyse, c'est cette ancre. Elle tire sa substance d'une réalité fixe, peu importe la violence de la tempête à la surface.
Et ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont cette architecture psychologique et spirituelle, eh bien, elle permet la coexistence d'états qu'on juge habituellement incompatibles.
Comment ça, incompatibles ?
Bah, le docteur Harmon s'attarde longuement sur le fait que la joie véritable et le chagrin le plus profond ne s'excluent pas mutuellement, en fait.
Ah ouais ?
Ouais. La psyché humaine, c'est pas un interrupteur binaire, genre on-off, où la présence de la tristesse éteindrait automatiquement toute possibilité de joie.
Alors sur le papier, la théorie est belle, mais bon, sur le plan purement chimique et émotionnel, quand on est effondré par un deuil, un licenciement ou une maladie grave, on n'a tout simplement pas accès au registre de l'allégresse.
C'est vrai, ça paraît impossible.
Donc, comment Paul peut-il exiger ça sans tomber dans un déni psychologique hyper dangereux? Je veux dire, aujourd'hui, on qualifierait presque cette injonction de positivité toxique. Tu sais, cette manie moderne de toujours masquer la douleur sous des sourires forcés.
Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais la différence avec la positivité toxique, elle réside vraiment dans le rapport à la réalité de la douleur.
Ok, c'est-à-dire qu'il ne l'ignore pas.
Exactement. La positivité toxique, elle exige l'effacement de la souffrance et la simulation du bien-être. Faut faire semblant que tout va bien, mais l'approche de Paul, telle que décortiquée par Harmon, elle valide complètement la souffrance.
D'accord.
Paul gémit sous ses propres chaînes, il mentionne ouvertement ses angoisses pour ses églises, il s'agit pas du tout de rire au milieu d'un enterrement.
Ce serait absurde, de toute façon.
Complètement, il s'agit de ressentir la pleine mesure du déchirement, tout en gardant cette conscience intellectuelle et spirituelle qu'il existe une réalité supérieure, bienveillante, qui reste intacte. C'est une joie de positionnement, en fait, pas une simple humeur.
Ah, une joie de positionnement, c'est fort ça.
Oui, et c'est pour cela qu'il enchaîne immédiatement au verset 5 en demandant que notre douceur ou notre caractère raisonnable soit connu de tous.
C'est vrai que ce concept de douceur, ça prend une dimension très pragmatique quand on regarde le contexte historique de cette église de Philippe. Parce que le texte mentionne un peu plus haut un conflit ouvert entre deux femmes importantes de la communauté.
Évodie et Saint-Tiche, oui.
Voilà. Et du coup, être raisonnable dans ce cadre de tension, c'est pas juste être poli ou gentille.
Ah non, pas du tout. Le terme grec sous-jacent, il est infiniment plus riche que notre mot « douceur ». Il décrit en gros une disposition d'esprit qui refuse d'exiger l'application stricte et inflexible de ses propres droits.
Lâcher du lest, en somme.
C'est ça. C'est la capacité à relâcher la pression dans un conflit, à ne pas chercher à écraser l'autre avec ses arguments, même, et c'est ça le plus dur, même quand on a techniquement raison.
Ouf, ça c'est un défi pour l'ego.
Totalement. Et le docteur Harmon, il lit cette attitude directement à la motivation qui suit juste après dans le texte, qui est « Le Seigneur est proche ».
Alors là, cette notion de proximité, elle est super sujette à interprétation. On parle de quoi là? D'une proximité temporelle, genre l'imminence d'un événement historique, ou bien d'une proximité spatiale, le fait d'être accompagné ici et maintenant?
Eh bien, l'exégèse du docteur Harmon met en lumière une ambiguïté linguistique que Paul semble utiliser de manière tout à fait intentionnelle.
Il jouerait sur les deux tableaux.
C'est ça, les deux réalités se superposent. D'une part, la proximité temporelle du jugement final, ça permet de relativiser les conflits présents. Je veux dire, pourquoi s'en trop déchirer pour avoir raison si la fin de l'histoire approche à grands pas?
Vu comme ça, c'est sûr que nos petites disputes perdent de leur importance.
Voilà. Et d'autre part, la proximité spatiale agit comme un calmant immédiat. Dieu est présent, dans la pièce, au milieu même de l'adversité. Et cette double conscience, elle désarme complètement l'agressivité et l'envie de se venger.
Mais du coup, si ce point d'ancrage est si proche, si cette présence est supposée être une réalité palpable, pourquoi notre premier réflexe, face à l'incertitude, ça reste la panique pure et simple?
Ah, la condition humaine!
Ben oui! Et c'est vraiment le nœud du problème, ça nous amène à la transition vers le grand thème du verset 6, l'anxiété. Le commandement « ne vous inquiétez de rien », ça semble être la consigne la plus impraticable de toute l'Antiquité.
C'est clair.
Surtout pour notre époque contemporaine qui carbure littéralement au stress chronique et à l'hypervigilance.
Le défi est effectivement titanesque. Harmon rappelle d'ailleurs que Paul fait ici écho au serment sur la montagne de Jésus. Sauf que Paul, heureusement, ne laisse pas ses lecteurs avec un simple ordre d'arrêt.
Ce qui serait terriblement frustrant. Genre, arrête de stresser, la pire chose à dire est quelqu'un d'anxieux.
Exactement, ça ne marche jamais. Non, il fournit la mécanique de l'antidote. Et cet antidote, c'est la prière et la supplication, le tout enveloppé d'actions de grâce.
Ok.
L'opposition dans le texte est vraiment totale. C'est « ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins ».
Faut vraiment qu'on s'arrête sur cette opposition-là. Parce qu'il y a un biais cognitif hyper répandu qui nous pousse à hiérarchiser nos problèmes.
Ah oui, on fait tout le temps ça.
Bah oui, on se lève, on regarde les infos, on voit des catastrophes à grande échelle, des guerres, et on se dit qu'il serait absurde, voire limite égoïste, de solliciter une force divine juste parce qu'on a une boule au ventre à cause d'une facture de garagiste imprévue ou d'une présentation au boulot.
C'est un réflexe naturel de se dire « mes problèmes sont ridicules à côté du reste ».
Mais la logique présentée par les sources, elle affirme exactement l'inverse, non ?
Oui, la logique biblique rejette totalement cette hiérarchisation humaine. Si le domaine d'application s'étend toute chose, c'est qu'il n'y a absolument rien de trop microscopique pour être externalisé.
Rien n'est trop petit.
Rien. Le docteur Harmon précise même que refouler ces petites angoisses par fausse humilité, c'est laisser des micro-fractures fragiliser toute notre structure mentale. Et le mécanisme central de cette décharge émotionnelle, c'est l'action de grâce, la gratitude.
Donc, dire merci.
Oui, mais remercier avant même de voir une solution. Ça permet de modifier le cadre cognitif. On ne se concentre plus uniquement sur le manque ou sur le danger, mais sur la fiabilité historique de celui à qui on s'adresse.
Tu sais, l'image qui illustre le mieux notre rapport un peu dysfonctionnel à cette pratique, c'est celle de la boîte rouge d'alarme incendie, tu sais, dans les couloirs d'immeubles.
Ah oui, avec la petite vitre à briser.
Voilà. On gère notre anxiété par nous-mêmes, on rumine, on cherche des stratégies, on épuise complètement notre entourage avec nos problèmes, et quand les flammes émotionnelles ont tout ravagé et qu'on fait une crise de panique, là, paf, on brise la glace de la boîte d'urgence en disant « bon, bah, il ne me reste plus qu'à prier ».
C'est tellement ça. Le fameux « dernier recours ».
Alors que l'analyse souligne que ce texte décrit un fonctionnement diamétralement opposé, beaucoup plus semblable à une respiration autonome continue.
C'est une excellente métaphore. L'utilisation de ce recours comme première ligne de défense et non comme un bouton de panique de dernière minute, c'est vraiment le cœur du message de Paul. Traiter l'anxiété dès la première étincelle, c'est ce qui empêche l'incendie de se propager.
Ça demande une sacrée discipline.
Oui, mais l'exégèse Harmon apporte une nuance psychologique d'une lucidité frappante sur ce point, très loin des discours simplistes. Il souligne de cette démarche, c'est pas un sortilège magique d'effacement de la mémoire.
Et donc ça ne disparaît pas d'un coup de baguette magique.
Non, on ne dépose pas une angoisse pour la voir s'évaporer à tout jamais dans la seconde qui suit.
Et ça, la question des attentes, c'est super critique ici. Parce qu'imaginons une personne qui suit cette prescription à la lettre. Elle exprime ses peurs, elle cultive sa gratitude, elle fait tout l'exercice mental comme il faut.
Ouais.
Et pourtant, le lendemain matin, à 3h du mat, elle se réveille en sueur, avec la poitrine serrée par la même terreur. Le gros risque, c'est d'ajouter une couche de culpabilité par-dessus l'angoisse originelle, non?
C'est le danger numéro un, oui.
Le cerveau se met à tourner en boucle, genre « si j'ai toujours peur, c'est que j'ai utilisé la mauvaise formule, ou que ma foi est défectueuse, ou que j'ai mal prié ».
Et cette culpabilité, c'est un piège que l'analyse démonte très clairement. Le texte grec et l'expérience de Paul indiquent que c'est un processus répétitif, presque laborieux. La persistance de l'anxiété, ça ne signifie pas l'échec de la démarche.
Ça signale quoi alors, Evelyne ?
Ça signale simplement la condition humaine. La réponse n'est pas de chercher où l'on a fauté, mais de reprendre le cycle de l'externalisation de manière persistante, encore et encore, à chaque fois que l'angoisse tente de se réinstaller.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si la pratique ne dissout pas l'anxiété instantanément par un tour de passe-passe, on doit se demander quel est le produit fini de ce mécanisme. Le verset 7 fait cette fameuse promesse de la paix de Dieu. Et franchement, c'est probablement l'expression la plus galvaudée et tordue de la spiritualité moderne. Tu ne trouves pas ?
Oh, complètement. Si l'on connecte cela à une perspective plus large, il devient urgent de déconstruire l'interprétation contemporaine de cette fameuse paix. Le docteur Harmon explique minutieusement que la paix décrite par Paul, c'est pas une simple sensation subjective de zénitude ou un électrocardiogramme plat sur le plan émotionnel.
Pas de zen attitude alors ?
Non. Il utilise un terme très précis pour la définir. Il dit que c'est la réalité objective du salut eschatologique.
Oula, attendez. Salut eschatologique, c'est un terme massif, ça. Pour clarifier les choses sans jargon pour les gens, ça signifie que cette paix, elle est liée à la garantie ultime de la fin de l'histoire, au fait d'être définitivement réconcilié avec le Créateur, indépendamment de notre petite météo interne du mardi matin.
Oui, c'est l'essence même de l'argument. Notre culture actuelle, elle place le confort émotionnel vraiment au sommet de la hiérarchie des valeurs.
C'est le but ultime de tout le monde aujourd'hui, se sentir bien.
Voilà. Et par conséquent, on s'imagine que la paix de Dieu, c'est l'absence de conflit, l'absence de doute, une sorte de bain chaud psychologique permanent.
Un spa pour l'âme.
Exactement. Mais Armand réfute complètement cela. La paix de Dieu, c'est le statut d'une personne qui sait que sa destination finale est sécurisée, même si le trajet pour s'y rendre est rempli de turbulences terrifiantes.
On observe d'ailleurs les ravages de cette mauvaise définition dans nos processus de décision au quotidien. Enfin, on entend constamment des phrases comme « je n'ai pas ressenti de paix à l'idée d'avoir cette conversation difficile, donc je ne l'ai pas eue ».
Ah, la fameuse excuse.
Ou bien « je n'avais pas de paix pour prendre ce poste complexe » ou « pour quitter cette relation ». Bref, on instrumentalise ce concept spirituel pour légitimer notre fuite devant la difficulté en confondant la paix avec la zone de confort.
Et là-dessus, l'exégèse est implacable. La Bible ne propose nulle part d'attendre l'anesthésie de la peur avant d'agir.
Jamais.
Jamais.
Prendre une décision qui est alignée avec ses convictions profondes, ça va presque systématiquement générer des surfroides et un estomac noué.
Parce que l'obéissance ou le courage, ça coûte cher, tout simplement. Exactement. Et cet inconfort, il n'invalide en rien la présence de cette paix statutaire qui, selon Paul, va agir comme une sentinelle. D'ailleurs, le verbe « gardera » au verset 7, ça emploie un vocabulaire strictement militaire.
Ah ouais, on visualise carrément une garnison armée qui se déploie autour d'une ville. Sauf qu'ici, la forteresse à défendre, ce sont nos cœurs et nos pensées.
C'est ça.
Et ça, ça introduit une dynamique de coopération qui est indispensable. Je veux dire, si une garnison filtre les entrées principales d'une ville, les habitants ne peuvent pas laisser la porte de derrière grande ouverte.
Sinon, ça ne sert à rien.
Bah oui.
Et c'est tout l'enjeu des versets 8 et 9, la reprise en main du filtrage mental.
Cela soulève une question super importante concernant notre hygiène intellectuelle. Armon montre que Paul refuse l'idée qu'on soit de simples victimes passives de nos propres pensées. On a notre mot à dire.
Absolument. Il fournit une véritable liste de contrôles, hyper stricte, tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, beau, louable, excellent, digne de louange.
C'est précis.
Oui, et c'est sur ces éléments bien précis que notre attention doit se fixer de manière délibérée et active.
Il y a une mécanique psychologique très moderne dans ce texte antique, je trouve. Si on transpose ça à notre réalité d'aujourd'hui, notre cerveau, il agit exactement comme l'algorithme de recommandation d'un réseau social.
Oh, c'est une très bonne façon de le voir.
Tu vois, l'algorithme, il ne juge pas la valeur morale du contenu. Il optimise juste l'engagement. Si tu t'attardes sur des contenus anxiogènes, du cynisme, des polémiques stériles, l'algorithme mental va produire et suggérer des pensées de même nature. En continu.
C'est un cercle vicieux.
Et la friction, c'est que changer cette habitude, ça demande un effort cognitif colossal. Remplacer une pensée toxique par une pensée de cette fameuse liste de Paul, ça demande d'aller à contre-courant de la gravité psychologique.
Et l'effort de reconfiguration dont tu parles, il est vraiment au cœur de l'exégèse de Harmon. Laisser vagabonder son esprit sans surveillance, c'est laisser les mauvaises herbes de l'anxiété prendre racine et générer des comportements destructeurs.
Il faut faire le jardinier, quoi.
Exactement. Il faut opposer une résistance active. Et l'une des révélations les plus libératrices de cette analyse, je trouve, c'est que cette liste de choses belles et pures n'est pas restreinte au domaine de la pratique religieuse stricte.
Ah, parce que c'est vrai que, attention, quand un texte du 1er siècle parle de choses pures et excellentes, la caricature voudrait qu'on s'astreigne à ne penser qu'à des concepts théologiques abstraits.
Qu'on lise la Bible H24.
Si ça ou qu'on passe nos journées dans un monastère. Mais du coup, l'analyse de Harmon déconstruit cette vision un peu étriquée.
Totalement. Harmon précise que tout ce qui reflète la grâce, l'ingéniosité ou la beauté dans le monde créé, ça entre dans cette catégorie.
Genre quoi, concrètement ?
Eh bien, s'émerveiller de la complexité de l'astrophysique, par exemple. Ou écouter une symphonie magistrale, contempler l'architecture d'un pont bien conçu, ou même être témoin d'un simple acte de bravoure ordinaire dans la rue.
Ah ouais, la beauté du quotidien, en fait.
C'est ça. Tout cela nourrit l'algorithme mental avec du bon carburant. C'est une invitation à chercher l'excellence partout où elle se trouve et à s'en nourrir profondément.
S'en nourrir, ouais, mais aussi l'incarner. Parce que la contemplation seule, ça ne suffit pas. Le verset 9 passe carrément à l'action physique. Il dit de mettre en pratique ce qui était appris, reçu, entendu et vu. Le changement de paradigme, il passe par la répétition des gestes.
Oui, l'apprentissage, selon Paul, y combine la théorie, donc l'instruction formelle, et le modèle pratique, ce qu'il a lui-même démontré par sa propre vie. La répétition intentionnelle de ses filtres mentaux et de ses comportements, ça finit par forger une nouvelle architecture intérieure.
Et c'est là que la structure de l'argumentation de Paul culmine, avec un changement super subtil dans la promesse finale. Je sais pas si t'as remarqué, mais au verset 7, on parlait de « la paix de Dieu ».
Oui.
Et au verset 9, il garantit que « le Dieu de paix » sera avec vous.
C'est ça, c'est plus du tout pareil.
La gradation est magnifique. C'est la différence énorme entre recevoir un bénéfice de la part de quelqu'un et vivre en présence intime avec la source même de ce bénéfice.
Exactement. En disciplinant son esprit pour fixer son attention sur l'excellence et la vérité, on s'aligne sur la nature même du divin. La récompense, ce n'est plus seulement une protection mentale abstraite, c'est vraiment l'expérience relationnelle d'une présence apaisante au milieu même des chaînes et des procès.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si l'on devait extraire la moelle de cette analyse pour équiper notre propre quotidien, on pourrait tracer trois lignes d'action hyper claires. La première, c'est le changement radical de notre point focal.
Notre fameuse ancre.
Voilà. L'encre doit primer sur les vagues. La joie se puise dans une réalité inaltérable, ce qui lui permet, paradoxalement, de coexister avec nos inévitables deuils et chagrins.
Tout à fait. Et la deuxième ligne d'action, elle concerne notre méthode de traitement des angoisses. Il s'agit d'instituer ce dialogue fait de supplications et de gratitude comme un réflexe primaire.
Une respiration constante face à n'importe quel niveau de stress ?
C'est ça. En acceptant que le but, ce n'est pas l'éradication magique de la peur ressentie, mais la sécurisation de notre positionnement. C'est cette fameuse paix eschatologique qui garde la forteresse.
Et enfin, la troisième ligne, c'est la prise de responsabilité totale de notre diète mentale. Nous sommes les programmateurs de notre algorithme intérieur. On est chargé de filtrer avec acharnement et de traquer la beauté, la vérité et l'excellence dans le monde pour rééduquer notre attention.
C'est un travail quotidien.
C'est un travail manuel, quotidien et super exigeant. Et d'ailleurs, pour clore cette exploration, il y a une réflexion qui mérite vraiment qu'on s'y attarde, en faisant le pont entre ces textes anciens et nos connaissances scientifiques contemporaines.
Ah, tu penses à la neurologie ?
Exactement. On sait aujourd'hui, grâce à la neuroplasticité, que le cerveau modifie littéralement sa structure physique en fonction des pensées qu'on lui fait traiter de façon répétée.
Les fameux chemins neuronaux.
C'est ça. Si l'on imagine l'architecture neuronale d'un individu qui, chaque soir, s'astreint à recenser consciencieusement chaque élément noble, chaque trait de génie humain ou de beauté pure croisé dans sa journée,
ce serait incroyable.
Et qu'on la compare à la matière cérébrale façonnée par l'ingestion passive du flux incessant de tragédies numériques sur nos téléphones, c'est le jour et la nuit.
Oui, l'impact physique sur le cerveau est réel.
Il est vertigineux de penser qu'un prisonnier politique du 1er siècle, enchaîné dans le noir, avait déjà théorisé la méthode exacte pour démanteler de l'intérieur les prisons mentales de notre modernité.
C'est une conclusion frappante, ça laisse vraiment à réfléchir sur où on pose notre regard aujourd'hui.
Carrément. C'est tout pour notre analyse détaillée. Gardez un œil sur votre algorithme mental et cherchez le beau.